14h-15h sur Europe 1. La voie est libre.
La voie est libre continue, nouvelle page, on sort un peu du studio à la rencontre de Philippe Geluck qui vient de publier son nouvel album du chat qu'on attend toujours avec impatience. Le chat est parmi nous, c'est le titre.
Bonjour Philippe Geluck.
Bonjour Nicolas.
Je rigole parce qu'on vient de couper les micros, vous avez dit bonjour Mathieu tout à l'heure.
Mais je trouve que ce prénom vous irait mieux. Ouais, non, bon, je ne veux pas critiquer
non,
les parents.
Non mais j'ai rien contre, mais j'aime bien.
Ils ont bien choisi, mais voilà.
Merci de nous recevoir chez vous.
C'est un plaisir, soyez les bienvenus.
Alors, on n'est pas vraiment chez vous, en fait, on est dans votre pied-à-terre parisien qui est un tout petit appartement, mais avec au mur des peintures extraordinaires, je dois dire, des portraits. Qui sont ces gens ?
Alors,
le monsieur en pied, là, par exemple.
Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui. Ce sont des anonymes. À certains gogo, je fais croire que ce sont mes ancêtres. mais vous ne le croiriez pas. Alors, le portrait en pied, on l'a trouvé au marché du Sablon, chez un antiquaire.
Ouais.
Et pour moi, il pourrait être le père de Magritte ou le père d'Hergé. Parce qu'il porte le chapeau melon, une canne. Il a l'âge d'être le père de l'un des deux. Et chez l'un, ça aurait donné les Dupont-Dupont, et chez l'autre, ça aurait donné l'homme au chapeau melon de Magritte.
Et il y a un monsieur qui ressemble, qui a des faux airs à Robert de Niro.
Oui, absolument. Ça, c'est l'oncle de Robert de Niro, qui est le frère de la maman.
Mais c'est étrange, il y en a 5 ou 6, ce sont des inconnus complets.
Absolument.
Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ?
Mais ce qui me plaît, justement, c'est qu'on ne sache pas qui c'est la qualité de la peinture ou le côté, parce que sur la cheminée, là, il y a l'oncle de Robert de Niro et le fils de Jean-Paul Sartre. Qui sont côte à côte. Je réunis, je refais des familles à travers le temps. Et c'est des gens qui seraient tombés dans l'oubli totalement si je ne les avais pas exhumés de ces brocantes où on les a trouvés. Et en fait, on n'a pas. D'abord, vous constatez qu'il n'y a aucun tableau de moi, de ma main, au mur. Parce que ça, c'est le cas, j'allais dire, dans toutes nos maisons. Non, mais ici, on est à Paris, moi, je vis à Bruxelles, donc on a les deux. Et jamais j'ai des images de moi au mur parce que je ne veux pas imposer à ma femme ou à mes enfants. Ma présence qui est déjà plutôt un peu répétitive quand ils ouvrent un journal ou qu'ils allument la radio.
Alors, les livres, on peut l'ouvrir, la bibliothèque ?
Oui, bien sûr.
Donc, c'est un meuble vitré.
On voit les
livres derrière. Alors, évidemment, c'est une petite partie de votre collection. Mais comment ils se retrouvent là, ces livres-ci ? Pourquoi ils ne sont pas à Bruxelles, ceux-là ?
Alors, c'est des livres qui sont parfois trop lourds pour être ramenés vers Bruxelles, parce que tout de même, je voyage en Thalys, donc je voyageais léger. Je reçois beaucoup de livres qui sont soit des hommages, soit des sollicitations. Tiens, est-ce que vous pourriez pas... Des gens que je ne connais pas, qui m'envoient des livres que je ne lis pas toujours, malheureusement.
On peut avoir des livres qu'on n'a pas lus dans sa bibliothèque, au contraire.
Hein. Ben, heureusement. Hein. Alors, il y a dans une bibliothèque 2 sortes de livres. Ici, il y en a 3, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à moi. Comme c'est aussi ici un lieu où je travaille beaucoup, je dois pouvoir emmener tel album pour apporter à tel journaliste ou lors d'une tournée de promo d'un truc.
Il y a même des...
Ça, c'est des tirs à part, mais ceci,
à part, ouais.
Voilà, ceci c'était amusant. J'avais sorti ça au moment où j'ai publié la Bible selon le chat. Et j'ai fait... sur une partie du tir à part.
Un coupon d'indulgence.
Des coupons d'indulgence pour les journalistes. Si tu écris du bien de mon livre, tu auras droit à la vie éternelle, etc. Et le dernier, c'est si tu en dis du mal, tu seras damné pour le... Et on peut découper
génial.
Voilà, on découpe le bon, et puis on le renvoie à l'éditeur, et comme ça, moi, je transmets ça au Vatican immédiatement, et...
C'est réglé. Je vous le piquerai bien, mais c'est votre dernier.
Non, allez-y.
Ah,
je vous l'offre.
Comme ça, j'aurai des indulgences.
Donc, une bibliothèque, disions-nous, comporte des livres qu'on a lus parce qu'on les aime et qu'on veut les garder près de soi. Et puis, elle contient heureusement les livres que l'on veut lire. Et puis, il y a les livres aussi, ne nous le cachons pas, qui font un peu d'écho et qui sont là parce que la couleur du dos du livre fonctionne avec le décor.
Et ou qu'on nous a offert et qu'on ne peut pas éjecter si jamais l'ami qui nous l'a offert passe.
Absolument. D'où il est prudent quand on reçoit des livres dédicacés et qu'on veut les remettre en vente chez le bouquiniste du coin, de toujours bien découper la page de dédicace. Parce que je vous jure que j'ai retrouvé moi-même des livres adressés à des journalistes
Assez dur.
Chez Gilbert Joseph, et certains avant la sortie officielle du livre. Donc il y en a qui ne traînent pas. Vous savez ce que faisait Hugo Pratt, qui était un lecteur passionné?
Corto Maltese,
l'auteur de Corto Maltese. Il avait un appartement à Venise, il en avait un autre à Paris et un autre en Amérique du Sud. Je pense que c'est l'Argentine. En Argentine. Et il avait donc trois lieux de vie. Et chaque fois qu'il achetait un bouquin, il l'achetait en trois exemplaires pour avoir la même bibliothèque où qu'il aille.
Génial.
Magnifique.
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette bibliothèque? Alors, je vois le New Yorker et ça me fait penser qu'il y a quand même, évidemment, autant les feuilletons littéraires ont un peu disparu des journaux, autant les dessins, ça continue encore et encore. Je veux dire, le New Yorker, il est aussi connu en France par ses couvertures incroyables.
Alors, merci au New Yorker, merci aux journaux qui continuent à publier du dessin, parce que beaucoup ont fait marche arrière. La photo, je trouve que, honnêtement, dans la presse française, à part quelques exemples notoires, il n'y a pas assez de dessins. La presse française, ne publie pas assez de couvertures illustrées par des dessinateurs.
Comment ça se fait? Parce qu'on loue quand même les couvertures du New Yorker qui sont des illustrations à chaque fois.
Et l'essai n'a jamais été transformé ici. C'est plutôt une habitude anglo-saxonne. Les dessins dans les journaux, c'est important. Il y a bien sûr Plantu à la Une du Monde, il y a Vooch, il y en a quelques-uns. Il y a la presse satirique et illustrée, Charlie Hebdo, Ciné Mensuel et Le Canard Enchaîné, qui sont des journaux faits pour le dessin. Mais en dehors de ça, pour moi, personnellement, c'est un vrai manque. Et un autre manque, c'est celui de la disparition des dessins humoristiques. Quand j'étais petit, il y avait dans Paris Match, dans tous les journaux, des dessins qui étaient là, qui n'étaient pas des dessins d'actualité, ni politiques, ni polémiques forcément, mais qui étaient des dessins d'humour. Il y avait des pages entières de dessins.
Dans VSD ou je ne sais plus.
Alors moi, j'étais dans VSD, bien sûr, je n'y suis plus. Alors il ne faudrait pas que j'accuse la presse, alors que c'est moi qui l'ai quitté à un moment. Mais c'est une profession qui existe infiniment peu maintenant. À l'époque, il y avait Bosque, il y avait Chaval, Sampé, qui est toujours là, Bretéché, Tetsu. Enfin, moi, c'est des dizaines de noms qui me trottent en tête et de gens qui m'ont fasciné. J'étais à la recherche de ça. Il y avait Copy dans le Nouvel Observateur qui nous a été révélé grâce à cet hebdomadaire.
Alors là, vous êtes saisi d'un très beau livre. Dites-moi ce que c'est.
Alors, c'est le catalogue du musée d'Orsay sur l'exposition Léon Spilliart, qui est un peintre immense, peintre, graveur, illustrateur belge, pré-abstrait, c'est début du siècle. Très sombre. Il n'est pas connu comme il devrait l'être. Il y a comme ça des génies de la peinture qui sont passés. Celui-là, par exemple, je m'arrête sur une illustration, j'aurais pu l'acheter, celle-là. Ce n'était pas dans mes moyens, mais elle était à vendre il y a 2 ans.
C'est une dame sur une jetée face à la mer.
Oui.
Mais alors, c'est très, très sombre. Hein, c'est...
Ah oui, mais vous savez, en Belgique, le ciel est parfois si bas qu'un canal s'est pendu. Hein.
Non, mais c'est ça, la mélancolie, ça va aussi avec l'humour. Hein, c'est le...
Absolument.
Politesse du désespoir ou quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, je ne sais plus qui avait dit ça, mais...
L'humoriste est un rabat-joie, c'est Éric Chevillard, ça.
Oh, c'est joli.
Qu'est-ce qui vous plaît chez lui dans cette noirceur? Qu'est-ce que vous allez chercher?
Bah regardez là, c'est une jeune femme sur la digue, qui doit être à Ostende ou je sais pas quoi, sur la jetée, coup de vent. Ah oui, Ostende, vous voyez, je reconnais. Y a du vent qui lui fait voler les cheveux et qui soulève très légèrement sa jupe et fait apparaître les jupons ou les culottes bouffantes. C'est très pudique.
C'est très beau.
En même temps, c'est très érotique, très fort, très sombre.
Vous êtes d'accord avec ça? L'humoriste, en général, a aussi une part, peut-être pas sombre, mais enfin est conscient de sa propre mélancolie pour faire rire.
Je suis d'accord avec cette analyse-là. Je n'aime pas l'expression « clown triste », parce que je pense qu'il y a des humoristes qui sont des gens joyeux, ce que je suis. Il y en a d'autres qui ont mal terminé. Chaval s'est suicidé, Bosque s'est suicidé. D'autres ont fait des dépressions nerveuses gravissimes. Franquin, par exemple, ce qui lui a permis de sortir ses idées noires, ce qui est à la fois paradoxal.
C'est le symbole de cette idée.
Mais tous les humoristes ne sont pas des gens sinistres, mais ils ont une conscience exacerbée de la noirceur du monde qu'ils exorcisent par leur travail.
J'en profite pour dire que ma consoeur Eva Bester sort un très beau livre aussi sur Léon Spilliard. Comment on dit Spilliard ?
Oui, Spilliard.
Il est complètement inconnu, ce garçon. Hein. C'est
absolument trop
vieux. Pourquoi ? Il y a des gens qu'on redécouvre sans arrêt, puis qui retombent dans l'oubli, puis qu'on redécouvre.
Oui, et puis il y a des gens qu'on redécouvre pour toujours. Mozart a eu sa période d'oubli, Jean-Sébastien Bach aussi, et puis tout à coup, ça revient. Et je pense que Jean-Sébastien Bach, ça ne va plus jamais nous quitter. Oui, Eva Bessler, qui est une fille remarquable, je ne savais pas qu'elle avait fait un livre sur Spilliard. Je vais évidemment me le procurer.
Je vous le conseille. Et vous, vous resterez pour l'éternité, j'en suis sûr, Philippe Gueluc. Il n'y aura pas de retour et d'oubli et tout ça.
Vous pensez ?
Ouais, je suis sûr.
Bah, allez, juste un petit début d'éternité, ça me suffit.
Merci beaucoup, Philippe Gueluc.
Merci à vous.